Les coulisses de Rose la Tulipe. Première comédie musicale 100% à base de plantes. Paul Lafrance, compositeur, réalisateur de Rose la Tulipe. Avant de parler de Rose la Tulipe, parlons de toi un petit peu avant. D'où tu sors, toi, Paul?
J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais adolescent. Ça commence à faire quelques dizaines d'années, disons. Et j'ai vraiment travaillé comme musicien professionnel dans ma vingtaine, entre autres avec une légende en lui-même, Donald Poliquin, un gars du nord de l'Ontario. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui dès l'âge de 19 ans, de faire de la tournée un peu partout au Canada français et même au Canada anglais aussi. On faisait surtout des spectacles dans les écoles. Moi, ça a été un peu mon école pour ce qui est de la scène. Mais je faisais de la musique déjà depuis l'adolescence. Et au cégep, déjà, j'ai participé à des pièces de théâtre. Je pense même 4-5 pièces de théâtre, j'ai fait la musique. Et j'ai aussi fait une première comédie musicale, en fait, un opéra rock. On disait un opéra baroque écrit B-A-R-O-C-K, qui s'appelait La chanson de Roland, d'après la chanson de Geste, un des textes fondateurs du français. J'ai fait ça à 18 ans au cégep avec Benoît Auger qui avait écrit le livret. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre, là. Même à cet âge-là, je voulais faire que ça. J'avais vraiment adoré composer ça et produire ça. C'était une production étudiante, mais qui avait eu beaucoup de succès, qui avait eu des bons échos et tout. C'était en 1982, alors ça fait déjà pas mal longtemps. C'est comme ça que j'ai commencé. Je suis un autodidacte. À l'âge de 14-15 ans, j'ai eu le goût soudainement de jouer du violon. C'était la première époque du revivalisme de la musique traditionnelle au Québec. Là, hein? Des groupes comme La Bottine Souriante, Le Rêve du Diable, c'est à cette époque-là qu'ils ont commencé. Il y avait le groupe Bald qui était plus celtique aussi. Puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, puis je voulais jouer du violon comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis je peux dire que la musique traditionnelle, c'est un peu mon... Je la vois justement comme mon école. J'ai appris à jouer du violon en jouant de la musique traditionnelle ou des musiques traditionnelles, québécoises, celtiques. Mais à un moment donné, c'est un peu comme un musicien qui étudie le classique ou même le jazz. Après ça, on peut faire d'autres choses.
Tu me dis, tu es un autodidacte, donc tu n'as jamais étudié dans
une école
de
musique. J'ai jamais étudié la musique. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que mon frère, Luc Lafrance, Luc et Mario, mes deux frères, faisaient des chansons dans le temps, c'est des guitaristes. Puis Luc jouait avec un violoneux de style irlandais qui s'appelle Nathan Currie, qui est bien connu dans la région d'Ottawa. Il a fait des instruments, il fait toutes sortes de choses. Et il enseignait au Ottawa Folklore Center, qui était toute une institution. Hein. Ça a fermé il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il y a une dizaine d'années. Au début, j'ai fait quelques cours avec Nathan au Folklore Center, puis ça m'a un peu donné une base. T'sais. Lui, il m'a dit « Ah, c'est important, lire la musique, arrange-toi pour au moins te débrouiller. » Quand je suis déménagé à Montréal en 89, peu de temps après, il y a une musicienne qui s'appelle Joël Roy, qui vient du nord de l'Ontario, qui m'appelle, qui me dit « Connais-tu Gildor Roy? » Fait que je dis « Ah, il était pas connu, Gildor, ben dans ce temps-là, il commençait. » Mais j'avais vu son nom, Gildor, Gildor, c'est quand même un prénom qu'on remarque. J'ai dit, ça me dit quelque chose, il joue dans, je pense que c'était Super Samplon, ça s'appelait. Elle dit, elle dit, c'est mon neveu. Elle a un an de plus que lui, mais c'est la petite sœur du père de Gildor. Puis elle dit, il veut faire un spectacle à la Licorne de musique western, tout ça, puis on cherche un joueur de violon. Puis moi, Joël, c'est quelqu'un que j'avais croisé dans mes tournées en Ontario, là. Alors donc, j'ai dit, OK. Fait que je me suis retrouvé à jouer à la Licorne. Ça a été au printemps 1990, ça a été le show branché que tout le monde voulait venir voir, parce que c'était vraiment pas comme les autres affaires. Tu sais, Gildor, premièrement, c'était du vieux western. C'était très différent d'ailleurs de ce qu'il a fait par la suite, qui s'est plus tourné vers des pièces originales. C'était vraiment du vieux western, du Hank Williams, sortes de choses comme ça. Puis même des choses québécoises qui ont des fois la réputation d'être quétaines, si on veut.
C'est ça que Gildor Roy a amené à la musique western, il l'a fait passer à un autre niveau. Comme tu dis, c'était quelque chose d'un petit peu quétaine là, à l'époque. Puis quand Gildor est arrivé, c'est devenu comme...
Et c'est devenu comme branché. Voilà. Puis, tout ça. Puis le show, c'était vraiment sympathique. Tout le monde connaît Gildor, il est sympathique, tout ça. Fait que c'était le fun. C'était une formule assez lousse. Quand il y avait des artistes dans la salle, ils disaient « Hey, viens chanter une chanson avec nous! » Fait que ils sont tous passés, ce printemps-là, là, de Louise Portal à Jim Corcoran, en passant par Paul et Paul, Ding et Dong. Puis on les a tous accompagnés, c'était bien drôle. Même Elvis Gratton, qui
Julien Poulin.
Julien Poulin. Ouais. Pour moi, je venais d'arriver à Montréal, ça a été comme une espèce de chance, ça a été un beau trip aussi, là. Depuis 10 ans, là, je me suis vraiment remis à la musique. J'ai produit, je pense, 5, 6, 7 albums. Puis j'ai composé Rose la Tulipe, on va y venir. Uh-huh. Ça fait déjà 4 ans que je suis là-dessus. Là.
Les albums qu'on peut retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est tout sur les plateformes Spotify, nommez-les. Là, oui, vous pouvez trouver ça sans problème. En cherchant Paul Lafrance.
Rose la Tulipe. Comment on pourrait qualifier bon, cette œuvre? C'est une comédie musicale? Comment on appelle... Quelle étiquette tu mets là-dessus?
J'ai choisi le terme comédie musicale parce que maintenant, il y a plusieurs termes. Hein? On va dire théâtre musical, il y en a qui disent musical en prononçant à l'anglaise parce que bon, ça évoque quelque chose de peut-être différent un peu.
Mais quand on parle de comédie musicale, souvent on pense tout de suite à un film ou encore une prestation théâtrale dans une salle. C'est souvent ça, une comédie musicale. Mais dans le cas de Rose la Tulipe, c'est un petit peu différent. Là. Tout se passe au niveau sonore seulement.
Oui, à cette étape-ci, en tout cas, parce que, bon, moi, de part, l'idée, c'était de composer l'œuvre, créer l'œuvre. Mais je me suis dit, si j'ai pas une version chantée des chansons, ça donne pas grand-chose. Alors, j'ai décidé d'enregistrer des chansons. Mais produire le spectacle, ça serait super, hein? Rose la Tulipe, sur scène, petite, moyenne ou grande production à grand déploiement, tout est possible. Quand on met ça sur une scène, ça veut dire des costumes, des décors, de l'éclairage, réserver une salle, faire de la promotion pour que les gens viennent, parce que on peut avoir la plus belle salle, mais si personne vient voir le spectacle, c'est pas intéressant. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, à un moment donné, ah, ça pourrait être intéressant, une version audio, une version sonore qu'on peut écouter d'un bout à l'autre, qui s'écoute bien. Les balados, les podcasts, là, les balados, c'est comme un peu à la mode ces temps-ci, plein de gens en écoutent. Puis moi aussi, comme créateur de cette œuvre-là, c'est que je livre une version complète, entière de l'œuvre, qui s'écoute d'un bout à l'autre, avec tous les dialogues, les effets sonores, la musique, la narration, et même une conteuse, on y viendra, que j'ai ajouté pour la version balado. C'est ma façon de livrer une œuvre complète, entière, à 100%, de A à Z. Ça va déjà être quand même une première création de l'œuvre.
Ça permet quand même de produire des choses qui, autrement, auraient coûté très, très cher. Parce que là, t'es tout seul là-dedans. Là. Il n'y a pas 18 personnes au bureau qui travaillent avec toi.
Non,
là.
Non.
T'as tout fait ça de A à Z.
J'ai tout fait. Évidemment, il y a la participation d'une douzaine, quinzaine de personnes. Mmh. Hein, les interprètes, les 11 interprètes. C'est une façon, évidemment, aussi de couper les coups et de garder, dans le fond, je le fais comme je veux. Si les gens n'aiment pas ça, ils ne pourront pas blâmer quelqu'un d'autre que moi.
Je trouve ça formidable.
Et s'ils aiment ça, ben, ça va être grâce à moi.
Je trouve ça formidable parce que moi, je fais des films comme ça avec des équipes réduites à une personne souvent.
Oui, ouais, c'est ça.
Alors, je peux comprendre un petit peu la démarche. Tu me parlais des chanteurs parce que bon, il faut faire appel à des comédiens, des chanteurs. Tu sais, avant de parler d'eux, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est l'histoire de Rose la Tulipe en quelques mots.
Rose la Tulipe, tout d'abord, c'est une légende qui nous vient de la tradition orale québécoise. Alors, un peu comme les chansons, comme à la Clairefontaine qui a 5000 versions recensées, mais il y en a peut-être le double. Qu'est-ce que ça raconte en une phrase? C'est que, par une belle veillée, qui est en général le soir du Mardi Gras, il y a un bel étranger qui se présente à la fête dans un village et qui séduit une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Des fois, c'est un peu la morale, hein, qu'on trouvait ça bien effrayant quand une femme rendue au début de la vingtaine n'était pas mariée, c'était bien effrayant. Et il y a différentes fins. Des fois, ça finit très mal, alors le diable part en fumée avec la belle rose. Et le village brûle, et bon. Puis il y a d'autres versions où c'est M. le curé qui arrive triomphateur avec son crucifix, puis une prière, puis qui effraie le diable. Je suis parti de ça, mais j'ai fait ma version. Alors, le début, la fin, tout ça, vous verrez. Évidemment, j'ai inventé plusieurs personnages. En général, hein, c'est Rose, ses parents. Elle a souvent un copain qui s'appelle Gabriel. Moi, c'est pas le nom que j'ai utilisé. C'est pas la même chose non plus. Puis il y a le diable, et bon. Mais moi, je trouvais que ce qui était le plus important là-dedans, c'était de créer une famille. Alors, la famille La Tulipe, qui a un magasin général. Donc, c'est chez La Tulipe et filles, parce qu'ils ont 3 filles. Dans le village de Sainte-Flore-de-la-Vallée. Alors là, je m'en vais déjà plus loin que juste c'est quoi l'histoire de Rose la Tulipe. En quelques mots, c'est ça l'histoire. évidemment, ça reflète un peu les croyances, les peurs, les superstitions d'antan par rapport au diable. Mais je peux déjà en parler. Le diable, souvent, dans les légendes, dans l'histoire québécoise, il était un peu le dindon de la farce.
Mm-hmm.
Donc, souvent, c'est une façon aussi de vanter l'esprit créatif des villageois, tu sais, des Québécois qui trouvaient toujours un moyen de chasser le diable, mm-hmm. finalement.
Puis de faire le party aussi.
Puis de faire le party,
ouais,
oui.
Ça.
Qui n'était pas toujours bien vu par l'Église.
Non, au contraire.
Mais qu'on faisait quand même, je ouais. pense.
Mais là, quand on reprend une légende comme ça, qui date quand même là, de plusieurs dizaines d'années, siècles peut-être, pour mettre ça au goût du jour un petit peu, là, il faut aller chercher des trucs qui nous raccrochent à la réalité actuelle. Là. C'est ça que tu as
ben,
fait
c'est sûr actuelle? Que c'est oui. Oui, il y a des liens avec... Là, c'est vraiment quand on va au second degré, souvent. Si on écoute bien les paroles et ce qui se dit, bon, il y a des allusions à des choses qui se passent aujourd'hui. J'ai pas nécessairement voulu faire, comme on fait souvent aujourd'hui, de faire parler les personnages d'une façon qui ressemble à aujourd'hui. On va vouloir mettre toutes sortes de personnes qui représentent la société d'aujourd'hui ou ce genre de choses-là.
Mm-hmm.
J'ai pas vraiment tenté de faire ça. Souvent aussi, on dirait, on va dans le soit très drôle ou dans le très, très, très intense et dramatique où tout le monde devient méchant. J'ai pas voulu aller là-dedans non plus. Mais comme je dis, il y a des allusions. Si on écoute bien, si on regarde plus loin que la surface, on va voir qu'il y a des allusions
ouais.
à ce qui se passe aujourd'hui.
Ouais.
C'est ça.
On va parler des comédiens parce que tu as dû recruter une troupe de comédiens,
oui.
puis de chanteurs, tout ça. Puis juste avant, j'aimerais ça qu'on en écoute quelques-uns, parce que moi, je les ai rejoints, je leur ai parlé au téléphone, entre parenthèses, sans m'en rendre compte, c'était la journée du Mardi Gras, que j'ai fait ça, le Mardi Gras 2026. Ça tombe la même journée où se déroule l'action de Rose la Tulipe, parce que c'est un soir de Mardi Gras.
Oui.
Il faut arrêter de danser à minuit, sinon le diable apparaît.
Exactement.
Ben, j'aimerais ça qu'on en écoute quelques-uns qui vont nous parler d'un petit peu de leur expérience, comment ils ont trouvé le fait de travailler avec toi, Paul.
Marc-André Charrette.
Pour moi, dans un choix de projet, c'est important aussi. Est-ce que humainement, je vais vivre quelque chose qui va être agréable? Est-ce qu'il y aura eu du plaisir qui va être au rendez-vous? Comme je disais, j'ai l'impression que c'était pour être le cas avec Paul. Fait que c'est un mélange de ça et de ce que j'avais entendu au niveau musical, de ce qu'il m'avait envoyé comme première trame.
Sylvain Landry.
On est allé au collège ensemble. Et dans ce temps-là, Paul, c'est un peu à cause de lui que je suis parti dans les arts et dans les arts de scène particulièrement.
Michel Deslauriers.
Je trouvais ça charmant, joyeux et même sa finale est joyeuse, parce que souvent, ça finit en drame. Le diable s'en allait avec la jeune fille. Puis bon, voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça, par la grand-mère aussi, qui raconte l'histoire.
Michel Labrec.
La créativité de Paul fait que nous amène ailleurs, vraiment. C'est une belle fusion, c'est une belle exploration du monde trad, mais du monde aussi fusion entre la traditionnelle et d'autres styles de musique, parce qu'il y a plein de styles de musique dans ce qu'il fait.
Comment t'as fait pour les recruter? Est-ce que c'est des gens que tu connaissais, avec qui t'avais déjà travaillé?
Il y en a que je connaissais. Il y en a que je connaissais de nom, je dirais. Moi, j'habite dans la Petite Nation, à Saint-André-Avelin, en plein cœur de la Petite Nation. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est entre Gatineau puis Montréal.
Oui.
J'ai beaucoup regardé autour, parce que dans la Petite Nation, il y a beaucoup de talent. Il y a certains interprètes qui viennent du coin. Hélène Messier fait Hortense, la quêteuse. Elle habite à Thurceau. Michel Labrec, qui fait Mononcle Ferréol, c'est des gens du coin. Il y a Annabelle Drou, qui habite à Montpellier, que j'avais déjà connue dans les années 2000. Elle était très jeune, parce qu'elle était encore très jeune. Elle avait participé à un concours au Théâtre des Quatre Sœurs, un concours de chansons, et j'étais un des juges, alors je l'avais connue là. Bon, il y a Isabelle Beauregard, qui habite à Aylmer, donc à Gatineau. Je la connais depuis des années. On a fait un album ensemble qui s'appelle Les Tendres Souhaits, qu'on a lancé en 2021 déjà.
C'est sué bord du Saint-Laurent, pis papa, c'est l'amour. C'est sué bord du Saint-Laurent, il y avait trois jolies filles. Il y avait trois jolies filles.
Elle fait la mère de Rose la Tulipe. Chantal Legault, qui fait Marguerite, l'autre sœur de Rose. Elle habite dans le coin de la Chute, mais c'est une fille de Saint-Sixte, dans la Petite Nation. Fait que je l'ai connue aussi il y a une vingtaine d'années avec le Cœur de Pomme dans le temps. Après ça, elle est allée étudier à Sherbrooke en chant classique, tout ça, mais j'ai toujours gardé le contact avec Chantal. Laurence Latreille qui fait Rose la Tulipe.
Oui, le rôle principal.
Le rôle principal. En fait, ça doit déjà faire 7-8 ans avec Sylvain Landry qui fait Hyacinthe la Tulipe. qui est un vieux chum du Collège Saint-Alexandre. Il a participé, il faisait Charlemagne dans la chanson de Roland, mon premier opéra rock en 1982. Sylvain m'avait approché pour jouer dans un spectacle qui portait en fait sur la chasse-galerie d'ailleurs. Fait que moi, j'étais le musicien, j'étais le joueur de violon. Puis Laurence jouait là-dedans. C'est comme ça que je l'ai connue. Donc, je l'ai recontactée. Elle, entre-temps, elle a fait plein de choses. Elle a joué dans des séries.
Oui, parce que c'est une comédienne de métier.
Elle a étudié à l'Université d'Ottawa en théâtre. Elle a joué dans des mini-séries. Puis, finalement, elle a étudié au Conservatoire de Montréal. Elle venait de finir le conservatoire à peu près quand je l'ai contactée. Elle adore chanter. Et elle adore, évidemment, jouer la comédie. Elle a tous les talents, d'ailleurs. Là. Elle est autrice.
Alors, quand j'ai rejoint Laurence, elle était en Espagne. Et puis, coïncidence, encore une fois, elle est allée se balader. Elle a vu un laurier rose.
Laurence Latreille.
Aujourd'hui, c'est drôle parce que je faisais une randonnée ce matin. Et ça s'appelle le Caminito del Rey, le petit chemin du roi. Puis, il y avait des arbres de toutes sortes. Et j'ai vu pour la première fois un laurier rose. Puis ça, il est question beaucoup du laurier rose dans la pièce parce qu'il y a même une chanson qui s'appelle comme ça, le laurier rose. Puis c'est Laurier qui chante ça à Rose pour essayer de la convaincre d'être en couple avec lui. Puis c'était la première fois que je voyais cet arbre-là dans la nature. Et c'est un arbre très toxique.
Laurier, qui est le nom de son prétendant dans la comédie musicale Rose la Tulipe.
En fait, ça, c'est drôle aussi parce que Rose la Tulipe, c'est clair que c'était son nom. Mais en créant mes personnages, je me suis dit, ah, ils vont tous avoir des noms de plantes. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis aussi que c'est la première comédie musicale 100% à base de plantes. Et là, le prétendant, en fait, on ne sait pas trop, c'est des amis de très très longue date. Ils ont grandi ensemble, Laurier et Rose. Je l'ai appelé Laurier, Laurier des Bois, parce que je trouvais ça sympathique comme nom. Mais je n'avais pas pensé, sur le coup, qu'il y a une plante qui s'appelle le Laurier Rose. Et à un moment donné, j'ai eu un flash. J'ai dit, ah, il pourrait avoir une chanson, le Laurier Rose.
Le Laurier Rose est une plante bien belle. Elle n'est pas rose, elle n'est pas laurier, non, non.
Puis dans le contexte, c'est que Rose, qui adore lire, elle lit un livre sur la botanique, elle découvre qu'il y a une plante qui s'appelle le laurier rose, puis finalement, ils font un duo où Laurier, il essaie d'y faire comprendre qu'il l'aime beaucoup, puis que, regarde, hey, le laurier rose, ça va bien ensemble, il y a même une plante qui s'appelle comme ça. Mais elle a dit, ouais, mais c'est une plante toxique, hein, puis bon, alors... Mais l'idée est venue comme ça, puis ça, finalement, je trouve que ça fait une chanson intéressante, puis ça a l'air comme si j'avais pensé d'appeler Laurier comme ça pour pouvoir faire une chanson de Laurier Rose, mais c'est plutôt le contraire.
C'est la plus belle chose. Oui, Rose, ma jolie Rose.
Quand tu me fais rire, je ne suis plus marrant.
J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de Michel Deslauriers. Parce que la façon de présenter la comédie musicale, en fait, c'est une grand-mère qui raconte à sa petite-fille la légende de Rose la Tulipe. C'est comme un peu la narratrice, mais c'est une grand-mère conteuse, dont le rôle est joué par Michel Deslauriers, qui est la comédienne bien connue. Tu la connaissais, elle aussi?
En fait, Michel Deslauriers, elle et son mari, Sébastien Laverna, ont un chalet dans la MRC de Papineau. Et il y a quelques années, Michel Tremblay est venu à Duhamel pour inaugurer une bibliothèque et il y a eu lecture d'extraits de son œuvre. Et c'était Michel Deslauriers, Sébastien Laverna, Caroline Laverna, leur fille, qui ont lu des extraits et tout ça. Moi, j'ai pas pu aller là, mais c'est une amie à moi qui a un peu organisé ça. Mais ça m'a fait savoir que Michel Deslauriers avait un chalet dans le coin. Fait que je me suis dit... On va communiquer avec l'agence de Michel Deslauriers, voir si elle aimerait participer à ça. Et elle a dit oui. Alors, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec elle dans la distribution. La conteuse, oui, je l'ai ajoutée quand j'ai pensé au balado. Parce que je me suis dit, une comédie musicale, on la voit, on voit ce qui se passe. Alors, par exemple, quand la porte ouvre et que c'est le diable qui entre, si c'était sur scène, puis il y aurait, je sais pas, peut-être de la fumée, puis on verrait un profil d'un monsieur avec un chapeau de forme. Mais là, si on fait juste entendre une porte qui ouvre, puis tout le monde qui fait on sait pas trop ce qui se passe. Fait que j'ai dit, ah, ça pourrait être une conteuse qui raconte l'histoire. Mais évidemment, c'est devenu beaucoup plus que juste dire les choses qu'on voit pas, là. Et d'avoir la petite fille qui interagit avec elle, ben ça fait plus intéressant aussi. Et il y a d'ailleurs, à la fin de l'histoire, c'est pas pour rien. que la grand-mère et la petite-fille, il y a un lien avec Rose la Tulipe. Et ça, il faut écouter le balado jusqu'à la fin pour comprendre.
Mais en parlant à Michel Deslauriers, j'ai compris à un moment donné pourquoi elle avait accepté.
J'aime beaucoup raconter des histoires. Mes filles, je racontais des histoires toutes pour l'enfant. Des fois, je refusais des contrats au théâtre, justement, pour être à la maison le soir, m'arranger pour avoir du travail où je pourrais être là le soir. J'adorais ça, moi, raconter des histoires à mes enfants, à mes neveux et nièces aussi, parce que j'ai eu une sœur qui a eu 12 enfants, ma sœur la plus vieille. Alors, j'ai commencé à garder avec ma sœur quand j'avais 5 ans, avec ma sœur plus vieille. Après ça, c'est moi qui ai gardé toute seule à partir de 8 ans. Je gardais là, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Alors, qu'est-ce que je faisais pour les tenir tranquilles? Je racontais des histoires. Alors, il paraît que quand j'étais petite, j'étais vraiment super efficace pour garder les enfants parce que je les passionnais par mes récits, mes histoires. Mais je déformais les histoires, je les faisais à ma façon. Alors, le petit chaperon rouge, là, oh boy, c'était plus tout à fait comme l'histoire traditionnelle. Alors, j'adore ça quand on prend les histoires justement comme Paul a fait et puis qu'il a fait à sa sauce, à sa façon.
Donc, il fallait aussi, en même temps, avoir une petite fille.
Oui.
À qui la grand-maman racontait l'histoire. Puis là, aller chercher des enfants, comme on dit en chinois, caster des enfants, c'est-à-dire les choisir pour un rôle, c'est pas toujours évident, là.
Comment ça s'est passé? En fait, j'ai cherché, j'ai demandé à des gens. Puis finalement, une amie qui s'appelle Marie-Christine Rivard, elle m'a dit « Ah, je fais des ateliers de théâtre. » Et dans les ateliers, j'ai un ami, il s'appelle François Michel. Sa fille, qui a 10 ans, fait des ateliers de théâtre aussi. Tout ça, elle a fait des ateliers aussi à l'Artichaut, à Gatineau, qui fait des ateliers de comédie musicale pour les jeunes. Entre autres, ils font beaucoup d'autres choses. Là. Entre autres, ils font ça. Et donc, je me suis un petit peu fié, si on veut, à Marie-Christine, qui me disait « Ah, elle va être bonne pour faire ça. » Et à son père, qui était bien prêt. Et elle était très, très, très enthousiaste, la fillette. Elle n'avait jamais fait quelque chose comme ça, parce que, évidemment, vous devinez, le contexte, c'est devant un micro. C'est pas comme sur une scène. Et on a enregistré séparément, Michel Deslauriers, une question d'horaire et tout, ça aurait été très compliqué. On l'a préparé, moi je l'ai rencontré, Marie-Christine l'a fait répéter aussi, je pense son père aussi, puis elle était très enthousiaste, alors elle a beaucoup pensé à son affaire aussi, elle est arrivée, elle était prête, et c'est comme ça que ça s'est fait, tout bonnement et tout simplement. Puis je pense que ça donne, il y a une belle interaction entre la grand-mère et sa petite-fille quand on l'écoute, là. Parce que finalement, on se retrouve avec une des comédiennes du Québec qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de longues années d'expérience et avec une fillette qui faisait sa première expérience professionnelle, si on veut. Ouais. Mais ça passe comme du beurre, hein, pour elle.
Je l'ai rencontrée aussi, puis c'est une petite fille assez allumée.
Je
foutais un petit bout de la conversation. Audrey Michel.
Moi, je suis Capucine et je pose des questions à la grand-mère pour qu'elle me réponde.
Donc toi, tu ne chantes pas, tu parles.
Oui.
C'est qui la grand-mère?
C'est Pervenche, c'est Michel Deslauriers qui la joue.
C'est la comédienne bien connue.
Ouais.
Est-ce que c'est la première fois que tu fais un truc comme ça?
Oui, mais j'ai déjà fait du théâtre quand même beaucoup avec Denis Chouinard et l'Artichaut et... Ouais, je suis quand même assez expérimentée en théâtre, mais c'est la première fois que je fais un balado.
Alors c'est une belle expérience.
Oui.
Est-ce que tu vas devenir comédienne plus tard? Est-ce que ça t'a donné le goût de continuer dans cette carrière-là?
Oui, mais je sais pas encore. Je pense que j'ai beaucoup de temps pour réfléchir.
En attendant, on fait ça pour s'amuser.
Oui.
Merci beaucoup.
De rien.
Comment ça s'est passé, techniquement, l'enregistrement? Comment on fait pour regrouper tous ces gens-là en studio? Comment on s'installe? Parlons un petit peu de l'installation technique puis de la complexité de cette affaire-là, de l'enregistrement même, le jour de l'enregistrement.
Il y a deux choses là-dedans. Il y a les chansons. Puis il y a les scènes parlées, donc les dialogues. Alors, les chansons, j'ai mon studio chez moi. C'est un studio, je veux dire, c'est dans mon appartement. Là, aujourd'hui, c'est plus... On n'est pas absolument obligé d'avoir une porte vitrée et tout et tout. Bon, la plupart des chansons, c'est un soliste ou une soliste qui chante. Mais dans certains cas, il y a des duos. Je parlais de la chanson de Laurier Rose, c'est un duo. Des fois, il y a des chœurs. Alors, en fait, ça a été enregistré comme ça se fait souvent en studio. Chacun est venu. Beaucoup là-dedans, c'est des comédiens professionnels qui habitent à Montréal. On avait déterminé une journée, ils sont venus, ils s'étaient préparés, ils ont interprété leur chanson. Fait que même dans le cas de duo, ça a tout été enregistré séparément. C'est quand même du travail assez typique de studio, de pas nécessairement être tous là, tous en même temps.
Puis là-dessus, on va en écouter quelques-uns qui vont nous parler de leur expérience, comment ils ont apprécié cette expérience-là de studio avec toi.
Chantal Legault.
D'abord, ça me plaisait, le fait de faire en studio en coulisses. J'ai probablement plus que le double, sans révéler mon âge, là, mais j'ai pas mal plus que le double de l'âge de mon personnage. Je me voyais mal d'aller sur scène et faire ça, là. Mais de le faire en coulisses, ça me plaisait bien. Puis, je trouvais que c'était quand même un beau défi à relever.
Laurence Latreille.
Paul, son écriture musicale est assez complexe et donc il faut une bonne technique. Il fallait bien les pratiquer pour arriver en studio prête à chanter sans que ça ait l'air d'être éreintant puis d'avoir l'air de travailler finalement. Fait que ça a été beaucoup une préparation, je dirais, technique. Puis sinon, pour ce qui est de l'émotion du personnage, ben moi, Rose, elle me rappelle un peu la candeur d'une Juliette que j'ai déjà joué également là, dans Roméo et Juliette. Il y a quelque chose d'assez universel, je pense, qu'on a tous déjà vécu, donc c'était assez facile pour moi de me mettre dans la peau du personnage quand même rapidement.
Les dialogues, en faisant une journée, prise de son stéréo, en fait avec 5 micros, tout le monde s'est bien préparé, on l'entend que ça a été vraiment enregistré live, on a fait plusieurs prises, comme un tournage de film, mais pas d'image.
Scène 5, prise 2, action.
Sacré l'abbé, il a l'air de mauvaise humeur, comme d'habitude.
Bonjour maman.
Bonjour papa.
Salut
Rose.
Oh, ben Marguerite et Pancrète, mes deux plus vieilles.
Chantal Legault.
Au niveau des dialogues, on n'était pas tous là, mais presque. Dans le fond, ça s'est fait en groupe. Ça a été une super belle expérience aussi, parce qu'il y en a certains qui se connaissaient là-dedans, mais pas tous. Donc, c'était comme la première fois, si on veut, là, qu'on se rencontrait pour travailler ensemble. Puis, ça s'est super bien fait, même si on donnait les répliques à d'autres qu'on n'avait jamais vus. Mais on était comme dans notre personnage.
Marc-André Charette.
J'avais fait déjà du balado dans le passé pour certaines pièces. Et souvent, c'est chacun de nous, on est dans notre studio, dans notre petit espace, notre micro et c'est tout. Dans ce cas-ci, quand même, Paul avait envie de quelque chose d'assez vivant. Donc, il nous avait quand même installé dans un espace où on avait la chance de bouger, on avait la chance de se déplacer, on avait la chance d'interagir les uns envers les autres. Quelque chose qui se rapprochait quand même un petit peu de la scène d'une certaine façon.
Avant de terminer, j'aimerais ça qu'on parle du diable, parce que c'est quand même un personnage important. Dans chaque histoire, roman, film, il y a toujours un méchant. Dans Rose la Tulipe, c'est Martial, il s'appelle Martial?
Il s'appelle Martial,
oui. OK.
C'est comme s'il y avait un nom québécois, là. Il s'appelle Martial Maccabée.
Mm-hmm. Est-ce qu'on a encore peur du diable aujourd'hui? Quel trait on peut le représenter? À quoi il ressemble dans Rose la Tulipe, ton diable?
Ben, en fait, c'est pas mal l'idée de la légende. C'est un homme mystérieux, un peu séduisant, séducteur, mais séduisant aussi. Quand les gens le voient arriver, ils ont un petit peu peur en même temps. On peut imaginer qu'il n'y a pas si longtemps, quand quelqu'un arrivait dans le village qu'on n'avait jamais vu, c'était un peu intimidant, on ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait, tout ça. Il est bien accueilli, parce que je pense que les gens étaient accueillants, mais en même temps, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire là et tout. Mais il fait pas vraiment peur au début, je dirais. Un petit peu, là, on a quand même une espèce de crainte. Voyons, qu'est-ce qu'il veut. Aujourd'hui, et même à cette époque-là, est-ce que le diable fait encore peur? Vous écouterez sa chanson. Ça s'appelle « De moi, on n'a plus guère la trouille ». Alors, ça dit un peu. Il est conscient, le diable, que il fait peut-être plus aussi peur qu'avant. Mm-hmm. Mais quand même, il nous dit, tu sais, que... Il y a bien des personnes qui lui ont vendu leur âme, si on veut, puis bon, sont prêts à n'importe quoi pour avoir ses faveurs.
On va écouter d'ailleurs le diable en personne nous dire ce que lui pense de son personnage.
Marc-André Charette.
Le personnage du diable qui s'appelle Martial, il arrive peut-être aux deux tiers de l'histoire. Puis la façon que Paul l'avait imaginé, puis la façon que moi je l'avais reçu aussi, un peu une espèce de dandy qui vient un peu séduire tout le monde juste par sa façon d'être. C'est assez, quand même assez agréable de jouer quelque chose qui est justement qui est un peu loin de moi, quelque chose qui est, comme je dis, un peu plus grand que nature. C'est des eaux que j'ai pu explorer un peu, mais bon, jamais en tant que diable comme tel. C'est ça, c'est plus agréable de venir brasser la baraque des autres personnages qui sont souvent, les personnages principaux souvent doivent être plus crédible, refléter davantage une réalité pour que les gens se reconnaissent. Donc, d'arriver de l'extérieur, d'être un petit peu plus grand que nature, comme je disais, ouais, c'est assez chouette de faire des personnages comme ça.
Michel Deslauriers.
Le punch là, du diable, tout le monde rit de lui finalement, et ça, ça le déconcerte, et on se rend compte qu'il n'a pas d'humour. Comme souvent, ces gens-là qui veulent contrôler le monde n'ont aucun humour. Faire rire d'eux autres, là, c'est, ça les insulte et puis ça les fragilise, finalement.
Le lancement va avoir lieu ou a eu lieu
oui.
Le 10 septembre 2026 au Centre d'art populaire du Québec, qui est dans la petite nation, à Plaisance. Ça a été fondé il y a quelques années. Ça renferme une collection d'art populaire du Québec. C'est un envoi à découvrir. C'est bien de l'art populaire, hein? C'est pas de l'art naïf, c'est pas... bon. Moi, ma création de Rose la Tulipe, d'une façon, ça s'inscrit un peu là-dedans, parce que j'ai pris la tradition québécoise, mais j'en ai fait quelque chose de différent, même sur le plan musical. Il y a des influences de musique traditionnelle, mais il y a d'autres influences et tout et tout. Fait que je trouvais que ça cadrait très bien dans le portrait. Le balado va être disponible sur toutes les plateformes de distribution de balado.
Puis peut-être un jour, on verra... Rose la Tulipe sur scène ou tout ça. Il y en a qui m'en ont parlé, hein, d'ailleurs.
Sylvain Landry.
J'espère que les gens vont écouter le balado. J'espère même que des bons producteurs de théâtre à Montréal ou ailleurs vont peut-être se dire « Hey, ce serait-tu le fun de faire cette belle version-là de M. Paul Lafrance? » Oh! Il n'y a jamais trop tard pour commencer à se faire connaître encore plus. Hein?
Ce serait vraiment bien.
Oui.
D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut s'investir et investir, manifestez-vous.
Voilà. Mais on ne sait jamais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le même sens?
J'ai un autre album de pièces instrumentales de violon qui est presque fini. Ça va s'appeler « Traverse de violon », soit dit en passant. La chanson de Roland que j'avais faite en 1982, j'ai toujours eu l'idée de retravailler ça et tout et tout. Alors peut-être, surtout si Rose la Tulipe, si les gens se montrent intéressés, ben ça pourrait être sympathique que je leur dise « ben j'ai déjà fait d'autres choses avant, c'est à voir ». Puis il va y avoir du repos aussi.
En attendant que Roland sonne de l'olifant.
Oui, c'est la scène finale.
C'est
hein?
De l'olifant.
Oui, oui. Okay.
Bon, ben, bon succès à Rose la Tulipe.
Merci
félicitations
beaucoup,
pour ce travail-là, mais vraiment extraordinaire. Là. C'est un travail titanesque de monter tout ça tout seul, de trouver les gens pour le réaliser, pour le faire, puis on souhaite le meilleur pour l'avenir. On espère que la carrière de Rose se poursuivra encore très longtemps.
Oui,
sur différentes plateformes, différentes scènes, etc.
Ben, merci beaucoup, Carl.
Merci beaucoup.
Les coulisses de Rose la Tulipe. Entrevue et réalisation, Carl Bernier. Appui technique, Paul Lafrance, Studio Baroque. Les productions baroques. Tout droit réservé, Paul Lafrance, Carl Bernier, 2026. paullafrancemusicien.com